Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Après une parenthèse canadienne, c'est donc le retour d'une personnalité africaine à la tête de la francophonie. Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, a donc été désignée secrétaire générale de l'organisation internationale. Mais ce choix, vous le savez, ne fait pas l'unanimité. Son pays est régulièrement pointé du doigt pour non-respect de la démocratie et des droits de l'homme, des valeurs qui sont pourtant défendues par la francophonie. Un choix qui pose question également, car la langue française est marginalisé au Rwanda depuis maintenant 10 ans. C'est l'anglais et non plus le français qui est la langue d'enseignement. Alors que vous inspire le choix de Louise Mushikiwabo? Quelles doivent être maintenant ses priorités, maintenant qu'elle est à la tête de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie? Elle le sera officiellement au mois de janvier, le 1er janvier, puisque le mandat de Michaël Jean expire à la fin du mois de décembre. On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 60 70 et vos nombreuses réactions sur la page Facebook. C'est promis, j'en lirai un grand nombre tout au long du débat pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, on écoute Gérard qui nous appelle de Liège. Bonjour Gérard.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute, vous lancez le débat.
Ah ben voilà, donc ce qui vient de se passer est vraiment scandaleux. C'est comme nommer pape quelqu'un qui a persécuté l'Église catholique et ses fidèles. Et ce qui est encore consternant, c'est parce qu'on a évincé Mme Michaël Jean, qui représentait entre autres le Québec, la province du Canada, qui se bat pour la survie de la langue française en Amérique et au Canada en particulier, pour la remplacer par la numéro 2 d'un régime dictatorial sanguinaire, qui a supprimé le français comme langue d'enseignement et d'administration, qui a rasé le centre culturel français au Rwanda, et qui est responsable des groupes armés qui ont massacré plus de 6 millions de Congolais francophones à l'est de la RDC.
Alors, donc, vous contestez donc ce choix qui a fait quand même consensus. Je rappelle que l'Union africaine, que la très grande majorité des pays africains membres de l'organisation soutenaient également sa candidature. Comment vous l'expliquez alors?
Ben écoutez, ce que les pays africains, plutôt les chefs d'État des pays africains, ce qu'ils ont fait, comme ils sont presque tous dictateurs, ils n'ont fait que soutenir le dictateur en chef, M. Kagame.
Ouais. Et donc, vous n'attendez rien, finalement, de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie, malgré le décor très négatif que vous venez de dresser?
Mais écoutez, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a participé dans le gouvernement, qui a supprimé le français, qui a rasé le centre culturel français, qui a fait tout pour que le français disparaisse au Rwanda, et lui demander de faire la promotion du français.
Alors vous dites que le français a disparu du Rwanda, le président Paul Kagame souligne que le Rwanda a toujours été membre de la francophonie depuis 1970 et qu'à aucun moment le Rwanda ne s'est retiré de cette organisation. Certes, il a rejoint le Commonwealth en 2009, mais tout en restant membre de la francophonie. Et comme le disait Louise Mushikiwabo, ce qui a créé la confusion, et en même temps, vous avez le droit d'avoir évidemment votre analyse personnelle, Gérard, mais ce qui crée la confusion, c'est que on a ajouté au Rwanda l'anglais aux langues qui sont parlées sur place. Il y a 4 langues officielles, le Swahili, le Kinyarwanda, l'anglais et le français. Le Rwanda est un pays multilingue, mais effectivement, il y a eu cette décision prise il y a maintenant 10 ans de faire en sorte que, enfin, de donner la consigne que le français ne soit plus langue d'enseignement. J'ai sous les yeux le courriel de Nicolas qui est à Kigali et qui regrette qu'on parle peu de la personnalité de Louise Mushikiwabo et de ses compétences. On parle plutôt du pays et de son président. Nicolas nous a envoyé son téléphone, nous l'avons rappelé. Bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Que pensez-vous de cette désignation?
Bon, moi je pense que c'est plutôt une très bonne chose. Comme je disais justement, je regrettais le fait qu'on ne parlait pas de la personne et aussi ce qu'elle a fait, parce qu'on oublie de dire que cette personne-là, elle a fait une forte campagne dans tous les pays africains, elle a fait le tour du monde, elle a parlé à différents chefs d'État et visiblement elle a donc convaincu. Et puis une chose qu'on a dit d'ailleurs très souvent, c'est qu'elle a réussi à avoir un consensus des pays africains autour d'elle, ce qui est très rare. Ce qu'il faut donc souligner. Donc il y a un travail qu'elle a abattu. Elle a voulu apporter quelque chose de nouveau. Elle a mis en avant son projet dont on n'a pas beaucoup parlé. Et ce projet-là, il a convaincu. En tout cas, moi, je pense que c'est aussi une très bonne chose que qu'on ait cette dame-là, la connaissant, une dame de fer, une dame qui a du caractère. Ouais. Elle veut apporter quelque chose de plus à cette organisation.
Et que, fait, voilà. Que faites-vous, Nicolas, de toutes les critiques formulées par des ONG, parfois même par les Nations Unies, concernant la liberté d'expression, le non-respect des droits de l'homme au Rwanda?
Moi, je pense que les critiques, c'est bon. Mais je pense qu'il faut essayer de réfléchir autrement. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Il y a le président Abdou Diouf qui a été à la tête de l'OIF. Est-ce qu'on peut dire que de son mandat, cette situation, elle a changé dans les pays francophones? Non. Il y a Boutros Ghali qui a été secrétaire général des Nations, de l'OIF. Mm-hmm. Pour autant, on sait très bien qu'il venait d'un pays qui n'était pas ce qu'on pouvait appeler une démocratie. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir autrement. Je crois que le président Macron, il a raison sur ces points, parce que le président Macron dit « je ne veux pas être un donneur des leçons ». Parce qu'on le voit très bien, peu importe le pays d'où vous venez, et le président Macron lui-même, il l'a vu, quand il vient en Afrique, il dit quelque chose par rapport à une situation qui est qualifiée d'être peu démocratique. Oui. Quand le président Macron le fait, il reçoit le tollé. Tout le monde dit on n'a pas des raisons, on n'a pas des leçons à recevoir de qui que ce soit.
Le président Macron qui disait sur l'antenne de RFI vendredi, je suis convaincu que par une exigence de tous, par une pression des pairs, on peut obtenir des résultats. Et je crois que le visage que le Rwanda est en train de montrer, c'est celui aussi d'un changement et d'une transformation. Et il poursuit en disant que le Rwanda est en train de faire une vraie transition politique. En tout cas, je l'espère. Fin de citation. Merci Nicolas de nous avoir envoyé cette réaction par courrier électronique, 33 9 693 693 70. Bonjour Djoumoi.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Très bien, vous nous appelez du sud de la France, vous êtes à Nice?
Exactement, je suis comorien, j'habite sur Nice. Ah, je voulais intervenir par la désignation de Madame Luz Moshekiwabo.
Allez-y.
Pour moi, je suis très positif sur la désignation de Madame Moshekiwabo, parce que déjà que la fonction revient en Afrique. Mais aussi, comme disait mon collègue qui intervenait tout à l'heure, on n'en parle plus sur son programme. On s'attarde sur les droits humains qu'au Rwanda. Et que moi je suis tout à fait séduit par son programme.
Qu'est-ce qui vous séduit dans son programme? Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme, Djoumoi?
Alors, ce qui me plaît dans son programme, d'ailleurs, il me donne une meilleure visibilité de l'OIF à travers les enjeux internationaux, par la langue française. Donc elle veut pas que l'OIF soit une organisation géopolitique, mais elle veut qu'on s'axe sur les enjeux culturels.
Et sur la jeunesse. Elle a aussi beaucoup parlé de la jeunesse.
Voilà, exactement. Là, je viens sur le deuxième point, qui est plus important pour moi, c'est qu'il met l'accent sur son action sur la jeunesse. Il faut que l'OIF doit créer des opportunités aux jeunes à travers des formations professionnelles adaptées, les accompagner dans des projets concrets vers l'emploi. Donc, pour moi, cela éviterait les jeunes, notamment africains, de périr dans les eaux de la Méditerranée. Donc, pour moi, je trouve que c'est un point très important que Mme Moshekiwabo, ils veulent inverser dans l'OIF.
Bon, merci Djoumoi d'écouter RFI sur Internet à Nice. On donne la parole au standard à François qui est à Libreville. Bonjour.
Bonjour.
Vous partagez l'optimisme exprimé à l'instant par cet auditeur de Nice?
Non, pas vraiment. Je disais déjà à vos collaborateurs ce matin que moi je suis plutôt un peu sceptique parce que rien que le mode de désignation, les raisons pour lesquelles elle a été désignée me laissent dubitatif. On sait aujourd'hui que le Rwanda souffle un peu le chaud et le froid dans ses relations avec la France. Alors pour un pays qui a remplacé le français par l'anglais il n'y a pas 10 ans, je crois que c'était en 2010, j'ai un peu l'impression que c'est le père qui offre la carotte à l'enfant produit pour le faire entrer dans le rang. Et donc à partir de là, même si j'ai quand même un peu lu certaines choses sur elle, qu'elle est pragmatique, je crois que ça fait 19 ans qu'elle est à la tête des affaires étrangères dans son pays, ça me laisse dubitatif les raisons pour lesquelles on l'a mise là.
Et vous donnez raison à Michael Jean qui, lors de son discours d'adieu à Erevan, c'était jeudi pour être précis, elle disait que les grandes valeurs de la francophonie comme la démocratie et les droits de l'homme étaient victimes de petits arrangements entre États et de la réelle politique.
Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, la frontière entre certains compromis et la compromission est très floue. Et d'ailleurs, il faut relever dans son discours à elle, que c'est vrai qu'elle a parlé de la jeunesse, je n'ai rien entendu sur les droits de l'homme, je n'ai rien entendu sur la démocratie. Or, aujourd'hui, la francophonie doit vraiment peser de tout son poids. C'est quand même 84 ou 85 pays.
Ouais. Enfin, sur la démocratie, elle en a parlé sur l'antenne de RFI de TV5 hier. Interview évidemment à réécouter sur le site RFI.fr, mais elle disait que la démocratie n'était pas une science précise.
Ben, tout ce qu'elle veut entreprendre aussi, autant que le développement et tout ce qu'elle veut mettre en place pour la jeunesse n'est pas une science précise. Je crois que c'est une petite fuite en avant. Quand on, aujourd'hui, à mon sens, la démocratie doit peser de toute la francophonie, pardon, doit peser de tout son poids parce qu'elle paye un peu par son soutien. Ce n'est pas qu'un instrument qui fait prévaloir la langue française. C'est plus que ça aujourd'hui.
Merci de cette réaction. Bonne journée à vous. Un petit détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Moussa nous dit c'est une déception pour nous, les pays africains qui parlons le français. Julie estime qu'il est inconcevable qu'un pays anglophone soit à la tête de l'OIF. Pour Modou, la désignation de Louise Mouchiki-Wabo à la tête de la francophonie est un grand bond en arrière pour l'OIF. La France, qui dit défendre la liberté et la démocratie, a osé soutenir une candidature venant d'un pays qui bafoue les droits de l'homme. Quelle contradiction, s'exclame donc cet auditeur sur notre page Facebook. Simon, je positive les choses en souhaitant que Louise Mouchiki-Wabo puisse influencer d'une manière ou d'une autre la démocratisation de son pays. Ismaël nous dit, rien ne sert de critiquer la démocratie rwandaise car ce pays constitue l'un des pays émergents du continent. Louise Mouchiki-Wabo est une figure emblématique qui incarnera les valeurs de cette institution. Comme la jeunesse sera au centre de ses actions, nous dit Ismaël, l'espoir est donc permis pour une francophonie permanente. Au standard, 33 9 693 693 70, JJO, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous n'êtes pas d'accord avec ce choix, hein. Vous le disiez au standard, le choix des pays membres de la francophonie ternit l'image de cette organisation.
Exactement. D'abord, je vais commencer par déplorer la façon inélégante dont Madame Michaëlle Jean a quitté la tête de la francophonie. Maintenant, pour revenir à Madame Mouchiki-Wabo, j'ai essayé d'écouter les uns et les autres, mais il s'avère que quand on dit qu'elle a fait une bonne campagne en parcourant les chefs d'État par-ci par-là, mais pourquoi on n'associe pas dans cette balade-là de campagne un contact avec les hommes de culture et tout, parce que la francophonie, c'est d'abord la culture, ce ne sont pas les chefs d'équipe. Mais quel est le point de vue des hommes de la culture qui sont prêts à promouvoir la langue française et tout, par rapport à ce choix et tout? Parce que quand on parle de consensus, mais ce sont les chefs d'État qui ont décidé, et on sait comment ça se passe généralement en Afrique. Mmh. En Afrique, bon... les chefs d'État font ce qu'ils veulent sans tenir compte des avis des uns et des autres. Donc, c'est pratiquement un système plus ou moins antidémocratique.
Oui,
donc,
enfin, que les chefs d'État décident, c'est une organisation intergouvernementale. Donc, c'est normal que le dernier mot leur revienne.
Oui, c'est vrai, mais le dernier mot leur revient. Mais est-ce que est-ce qu'on organise quand même des débats avec des hommes de culture? On en a beaucoup en Afrique. Il y en a qui sont là, mais pourquoi on les associe jamais à de tels choix, par exemple, à donner leur point de vue? Et maintenant, le dernier mot reviendra peut-être au chef d'État. Moi, c'est ce que j'essaie de demander. Et puis, cette femme-là, on connaît bien son passé. Hein, on connaît son passé. Aujourd'hui, bon, vous n'allez pas prendre comme conducteur de véhicule un ivrogne qui a été cassé, des machins, des trucs comme ça. Vous n'êtes pas, il ne va pas vous garantir exactement qu'il sera un exemplaire en matière de conduite.
Oui, enfin, vous faites référence au fait que le Rwanda a souvent été critiqué pour son manque de démocratie, et vous dites comment demain, Louise Mouchiki-Wabo sera crédible lorsqu'il s'agira de dire à tel ou tel chef d'État sur le continent africain ou membre de l'Organisation de la Francophonie, faites attention, soyez respectez les valeurs démocratiques, etc. Vous pensez que son discours n'aura pas de poids?
Ça, franchement, attends, Juan, sincèrement, regardez un peu qu'est-ce qu'elle a derrière le dos, cette dame-là.
enfin je ne sais pas, elle a un parcours de ministre des Affaires étrangères depuis 9 ans. Vous parliez des intellectuels, vous savez qu'Alain Mabankou a été interrogé sur RFI pour qu'il réagisse à la désignation de la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, et l'écrivain franco-congolais, qui est toujours aussi critique vis-à-vis de l'OIF, espère quand même que cette nomination placera la démocratie au cœur des actions de la francophonie. Là aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre sur le site internet RFI.fr, et vous pouvez, en image ou en son, comme vous le souhaitez, écouter la réaction donc de l'écrivain Alain Mabankou. 33 9 693 693 70. Bonjour Gilles.
Bonjour, bonjour Juan.
Vous êtes en Picardie.
C'est ça, on nous dit Hauts-de-France maintenant.
Hauts-de-France maintenant, vous êtes dans le nord de la France, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, qui situent à peu près où se trouve cette région. Vous ne trouvez pas normal que l'on critique Louise Moushiki-Ouabo?
Je ne trouve pas normal qu'on critique la personne, qu'on critique le fait qu'elle vient du Rwanda, parce que de toutes les façons, on a beau regarder, on a bien d'autres pays qui sont beaucoup moins démocratiques que le Rwanda, et qui font partie de différentes institutions internationales, et on ne les critique pas. Est-ce que la démocratie dont on parle, qu'on demande au Rwanda, est-ce que c'est la démocratie à la française, à l'anglaise ou à l'OIF? Ou à l'américaine. L'OIF n'a pas vocation à demander aux gens d'être démocratiques alors qu'elle-même ne l'est pas. On a élu.
Enfin, ça fait partie. Excusez-moi, ça fait partie des valeurs, la défense des droits de l'homme, la défense de la liberté d'expression font partie des valeurs défendues par la francophonie.
Tout à fait, mais est-ce qu'au Rwanda, quelqu'un peut me garantir qu'on n'a pas le droit de parler au Rwanda? J'ai été à Kigali, je n'ai pas eu l'impression qu'on m'a empêché de parler, de dire ce que je pense. Oui. Donc aujourd'hui, on a juste l'impression que parce que le Rwanda demande des comptes par rapport à ce qui s'est passé en 1994 à certains pays qui ont des droits à l'international, on a catalogué le Rwanda. Je pense que la chose est mal faite.
Mais vous dites qu'on a catalogué le Rwanda, par exemple, le président, la constitution a récemment été modifiée pour permettre à Paul Kagame, s'il le souhaite, de briguer autant de mandats qu'il le veut, je crois, jusqu'en 2034, si ma mémoire est bonne. Il y a eu de nombreux prisonniers politiques, certes, plus d'un millier en tout cas ont été libérés récemment, mais il y avait des prisonniers politiques, liberté d'expression. On a entendu Reporters sans frontières, là aussi, s'agissant de la presse, dénoncer la situation de la presse au Rwanda. Donc toutes ces critiques seraient infondées à vous entendre?
Je ne dis pas qu'elles seraient infondées, mais les droits de l'homme ne sont pas que la liberté de la presse et les prisonniers politiques. Et si aujourd'hui on a libéré des prisonniers politiques au Rwanda, ça veut dire que le Rwanda est dans le sens d'une certaine évolution. On ne va pas dire que... il n'y a rien qui se passe, les choses se font, ça c'est clair. Vous savez, quand on parle des droits de l'homme, moi, en tant que noir, j'ai peur d'aller aux États-Unis parce que si je vais aux États-Unis et qu'on a assassiné un blanc à 10 kilomètres de l'endroit où je suis le premier noir qu'on voit, c'est la chaise électrique. Donc, il y a toutes ces situations qui font qu'au final, on ne sait pas à quoi rime l'expression « droits de l'homme ».
Ouais. Merci, je vous interromps Gilles, merci à vous, et pour être précis dans le chiffre de personnes libérées, le chiffre exact était de 2140, dont l'opposante Victoire Ingabire. Il nous reste 1 minute 30, allez, on donne une petite minute à Timothée. Bonjour Timothée.
Bonjour Juan.
Vous allez être le plus court possible, on est obligé de rendre l'antenne, allez-y.
Oui, ma consternation, au-delà de tout ce qu'on dit sur le Rwanda et qui est vrai, manque de démocratie, les opposants en poursuite en tout moment, je me pose la question de savoir si ce n'est pas une récompense du crédit génocide. Il faut qu'on laisse un pays qui a totalement banni les Français, un pays qui n'a pas les Français dans ses échanges, dans sa culture, etc. Je me pose la question de savoir pourquoi nous appartenons à cette organisation à partir du moment où...
Mais c'est un pays, excusez-moi, c'est un pays qui est membre de la francophonie depuis sa création. Et à aucun moment, le Rwanda n'a claqué la porte de la francophonie. Donc il est membre à part entière, comme tous les autres pays, le Sénégal, le Mali et les autres pays, les 24 ou 29 pays africains, membres de la francophonie. Le débat est loin d'être clos, il est passionnant, je le vois ça, je vois l'intérêt qu'il suscite. On aura peut-être l'occasion dans les prochaines semaines d'y revenir, et certainement évidemment en début d'année, au moment de la prise effective des fonctions donc de Louise Moushiki.